Tur Jesus Christus.
Que vendredi prochain aura lieu une rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Les Ukrainiens redoutent un accord sur leur dos. Kiev n'entend pas capituler comme le souhaiterait Moscou. Nous irons en Ukraine dès le début de ce journal. Les autorités syriennes se retirent des pourparlers avec les Kurdes prévus dans quelques jours à Paris. Signe de la difficulté pour le nouveau pouvoir à Damas de dialoguer avec les minorités. Nous entendrons notre correspondante dans le pays. Dans ce journal également, en direction le Tchad où le principal opposant au président Déby Succès Masra a été condamné à 20 années de prison. Et puis nous entendrons l'archevêque de Port-au-Prince qui reviendra sur la faillite des autorités devant la violence qui mine le pays. Monseigneur Mésidor qui remercie aussi le pape et ses mots hier pour soutenir Haïti et le peuple haïtien.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour. Les États-Unis souhaitent programmer une rencontre entre Donald Trump, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. C'est ce qu'a confié le vice-président américain J.D. Vance dans un entretien. La semaine est en effet marquée par la rencontre prévue vendredi prochain en Alaska entre les présidents russes et américains sur le dossier de la guerre en Ukraine. Rencontre sans les Ukrainiens. Les Ukrainiens qui ne veulent pas être exclus d'un accord sur leur dos, car pour Kiev, rien n'a changé sur le terrain, ni les frappes quotidiennes contre les civils, ni les offensives russes le long de la ligne de front, et encore moins les demandes de Moscou à Trump qui relèvent d'une capitulation à laquelle l'Ukraine n'est pas prête. C'est ce que nous explique notre correspondante à Kiev, Emmanuel Chaz.
Moscou demanderait un retrait des troupes ukrainiennes de zones encore non occupées, comme le tiers de la région de Donetsk qui reste sous contrôle ukrainien, une région d'où Kiev a réussi à contenir les invasions russes de 2014 et 2022. Et si les Russes ont réussi à encercler la ville de Pokrovsk dans cette même région, ville réduite en poussière désormais, ils ne s'y sont toujours pas établis après plus d'un an de combats acharnés. Cela est représentatif des difficultés rencontrées par les Russes dans leurs avancées qui semblent inexorables mais qui sont extrêmement lentes et coûteuses en personnel et en équipement. De même, Kiev n'a aucune raison en l'état d'abandonner les grandes villes de Sloviansk et Kramatorsk, toujours peuplées par des dizaines de milliers d'Ukrainiens, dont des déplacés internes des communes voisines. Au-delà de la protection de cette population, céder ces territoires libres à Moscou offrirait une parfaite plateforme de lancement à la Russie pour toute nouvelle offensive dans le futur sur les régions voisines de Kharkiv, Zaporizhia et Soumy. À Kiev, Emmanuel Chaz pour Radio Vatican.
Et les ministres européens des Affaires étrangères, eux, se réunissent en urgence ce lundi avant ce sommet Trump-Poutine. L'Europe qui cherche encore à peser sur les pourparlers. Les États-Unis ont le pouvoir de contraindre la Russie à négocier sérieusement, a rappelé ce week-end la chef de la diplomatie européenne, Kaya Kallas. Reconnaître l'État de Palestine sape la sécurité d'Israël, dénonce l'ambassadeur de l'État hébreu en Australie. Canberra rejoint ce matin la liste des nombreux pays prêts à reconnaître aux Palestiniens un État. Ce sera lors de la prochaine Assemblée générale des Nations Unies au mois de septembre à New York. En attendant, le plan d'occupation de l'enclave palestinienne par l'armée israélienne, présenté hier soir par Benjamin Netanyahou, continue de susciter une vague de condamnations dans le monde entier. Gaza, où la faim se poursuit, où l'aide humanitaire ne rentre qu'au compte-gouttes. Gaza, où les frappes de Tsahal se poursuivent également. 5 employés de la chaîne Qatari Al Jazeera ont été tués dans une frappe sur leur tente près de l'hôpital Al-Shifa dans la ville de Gaza. L'ONG Reporters sans frontières dénonce un assassinat revendiqué par Israël. Un déplacement important au Liban ce lundi, celui du secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale de l'Iran, Ali Larijani. Sa visite intervient alors que le gouvernement libanais a annoncé un plan pour désarmer le Hezbollah, la milice chiite soutenue par Téhéran. Ali Larijani qui doit également se déplacer en Irak lors de cette tournée. La Syrie, elle, les autorités en Syrie, les autorités ont annoncé ce week-end se retirer des pourparlers avec les Kurdes qui doivent se tenir vendredi prochain à Paris. Des négociations qui avaient pour but la mise en place de l'accord pour l'intégration de l'administration autonome du nord-est syrien à l'État central, signé le 10 mars dernier. Cette conférence doit se tenir à Damas. Seule légitime et nationale pour un dialogue entre Syriens, a justifié un responsable. Cet échec des pourparlers montre surtout les difficultés actuelles du pouvoir syrien à négocier avec les minorités du pays. Les précisions à Damas de Manon Chaplin.
Cet échec arrive dans un contexte particulier, celui de fortes tensions avec la communauté de russe de Souaïda dans le sud du pays. Depuis la flambée des affrontements intercommunautaires et ses quelques 1200 morts en juillet, la ville vit comme assiégée. Les autorités de Damas ne laissent plus rien ni personne entrer, hormis quelques convois d'aide humanitaire. Ces restrictions n'ont pas suffi à faire plier la communauté de russe. Elle demande le maintien d'une certaine autonomie militaire acquise sous le régime de Bachar al-Assad. Or, une autonomie militaire, c'est précisément ce que demandent les Kurdes du Nord-Est. C'est précisément l'un des points qui devait être discuté ce vendredi à Paris. Et c'est ce que souhaitent éviter à tout prix les nouvelles autorités de Damas. Plusieurs experts affirment donc qu'elles ne souhaitaient pas arriver ce vendredi à la table des négociations en position de faiblesse. Elles rejettent depuis la chute du régime tout projet de décentralisation. En creux, se dessine une nouvelle alliance entre les communautés minoritaires du pays face à un pouvoir central que certains diraient maximaliste. Les Kurdes ont ainsi récemment organisé une conférence avec des représentants de Druze et Alaouites. Cela traduit aussi un manque de confiance envers les nouvelles autorités, et ce, suite aux différents épisodes de violence et d'exactions qui ont secoué la Syrie. Manon Chaplin à Damas pour Radio Vatican.
Au Tchad, c'est un coup dur pour l'opposition. Le principal opposant, Succès Masra, ancien Premier ministre et président du Parti des Transformateurs, a été condamné ce week-end aux côtés d'une cinquantaine de personnes à 20 ans de prison ferme. Il est reconnu coupable de diffusion de messages à caractère haineux et xénophobe et de complicité de meurtre dans le cadre d'un drame où 42 personnes ont été tuées au mois de mai dans un conflit intercommunautaire. Le dossier est vide, dénonce ses avocats. La correspondance N'Djamena d'Abba André Dieudonné.
Aussitôt après la sentence, l'opposant Dr Succès Masra a rassuré ses partisans en ces termes. « Ne vous inquiétez pas, gardez bien la maison, nous nous reverrons bientôt. » Fin de citation. Sa défense estime que cette condamnation est une ignominie et une humiliation indigne de son rang d'ancien premier ministre du Tchad. Maître Francis Kadila Mbaye est l'un de ses avocats.
« Nous assistons malheureusement à une consécration d'une pratique qui consiste en l'instrumentalisation de la justice pour pouvoir régler des comptes politiques. »
Pour l'analyste politique Dr Yaminge Betimbaye, la condamnation de l'opposant Dr Succès Masra, arrivé deuxième à la dernière élection présidentielle, est une neutralisation politique.
Il y a eu l'émission tout au long de la procédure des autorités administratives et politiques, notamment par des prises de parole, et on aura retenu l'intervention somme toute maladroite du porte-parole du gouvernement qui avait confirmé qu'il s'agissait d'une affaire politique. Et dès lors, il fallait donc s'attendre à une issue de ce procès qui confirme la neutralisation politique de l'ancien Premier ministre Succès Masra.
Les hommes politiques qualifient cette sentence de cynique et de ridicule qui consacre l'effondrement de ce qui restait de la justice tchadienne et s'interroge sur l'avenir du Tchad dont le socle ne peut être que la justice. Abba André Dieudonné N'Djamena pour Radio Vatican.
Un mot de Colombie où on apprend ce lundi la mort du candidat à la présidentielle et sénateur de droite Miguel Uribe, âgé de 39 ans. Il avait été grièvement blessé par balle à la tête au mois de juin dernier après une réunion publique de pré-campagne à Bogota, la capitale. Aujourd'hui est un jour triste pour le pays, déclare la vice-présidente colombienne. Le pape demande à la communauté internationale de soutenir le peuple haïtien. Il l'a fait hier après la prière de l'Angélus. Des mots du Saint-Père qui sont un réconfort pour de nombreux Haïtiens, nous explique Mgr Max Leroy Mésidor, l'archevêque de Port-au-Prince.
L'Église d'Haïti constate que le crime ne connaît plus de limites chez nous. En témoigne l'enlèvement de 8 personnes, dont un enfant, à l'orphelinat Sainte-Hélène de Kinskoff. Cet acte de barbarie est le signe, parmi tant d'autres, de la faillite de l'État et d'une société qui perd le sens de la vie et de la dignité humaine. Nous espérons que ce cri du pape sera entendu par les autorités haïtiennes et par la communauté internationale. La force multinationale d'appui à la sécurité a très peu d'effet. Elle manque cruellement d'effectifs et de moyens logistiques. Merci de tout cœur au pape Léon. Nous unissons notre prière à la sienne pour que Dieu aide le peuple haïtien à se libérer de toutes les chaînes qui entravent son développement, particulièrement la violence des groupes armés, le manque de conscience patriotique et les luttes mesquines pour le pouvoir et l'argent.
Voilà la reconnaissance de Mgr Max Leroy Mésidor, l'archevêque de Port-au-Prince, au pape Léon XIV, pour ses mots hier concernant la sécurité d'Haïti. Toutes ces informations sont évidemment à retrouver plus en détail sur notre site internet vaticannews.va. Merci beaucoup pour votre fidélité. Demain matin à 8h30, c'est Marine Henriot que vous retrouverez pour un nouveau journal. Je vous souhaite quant à moi une excellente après-midi.